RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG vous saluent, bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story pour 3 heures de grande gueule, 3 heures de discussion. Tiens, j'ai pas enlevé mon badge.
Ça fait vraiment le salarié du mois, tu sais, avec son badge.
À chaque fois que je suis dans les couloirs, moi je mets mon badge bien en évidence, puis je marche fièrement comme ça. C'est ça. Bonjour Sarah Salman, avocate.
Bonjour à tous. Bonjour, et je voudrais Olivier. Également saluer Julien Lepers, que j'ai croisé hier et qui m'a dit qu'il écoutait régulièrement les GG.
Eh bien, on l'embrasse.
Nous le saluons. Bonjour Olivier, je t'ai pas dit bonjour.
Bonjour Sarah, elle est en train de me raconter.
Attention à ce que tu vas dire.
Des soirées mondaines. Elle va de gala en gala.
Non, fais attention à ce
et j'aimerais
fais attention à ce que tu
non,
vas dire.
J'aimerais qu'un jour tu emmènes Bruno Poncet dans ces galas. Ça serait bien qu'on ait un délégué syndical dans les galas mondains parisiens de Sud. Imagine.
Dis-moi, tiens, bonjour Bruno, cheminot syndicaliste. J'ai vu qu'il y avait Geoffroy Roux de Bézieux, il a dit quelqu'un, le patron du MEDEF. Vous êtes claqué la bite
oui.
ou pas avec
Roux? Oui, bien sûr, oui. Puis après, on a checké. Puis après, il m'invite ce week-end dans sa partie de chasse en Sologne, là.
Bah, vous êtes parlé.
Si tu dis partie de chasse en Sologne, ça va rappeler des souvenirs.
Aux anciens.
C'est de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de la nouvelle patronne de la CGT, puisque le nom vient de tomber. C'est une surprise. C'est ni celle qui était programmée par Philippe Martinez, ni celle qui était opposée. C'est une troisième. C'est une femme, Sophie Binet. C'est la première fois que la CGT, depuis que la CGT existe, sera présidée par une femme, Sophie Binet. Elle vient des cadres en plus, intéressante, plutôt une jeune femme, donc il y a un renouvellement. Ouais. Bruno Poncet, tu la connais?
Oui, j'ai déjà croisé, et moi je trouve bien que ce soit une femme, surtout parce que dans le syndicalisme, on n'est pas vertueux non plus là-dessus, on peine à avoir des.
Ouais, c'est un poste vraiment que j'occuperai un jour.
Sarah Salman pourrait être à la tête de CGT, tu crois que c'est possible?
Il faut se faire élire, hein, c'est comme tout. Hein. Tu peux être à la tête de tout, mais il faut se faire élire. Hein.
Ah, c'est mal barré.
C'est comme tout.
Hein. Ouais, il va falloir voir son profil à Sophie Binet, effectivement, c'est intéressant parce qu'elle a l'air assez jeune, ça va contraster.
C'est quoi, assez jeune?
Comment?
Elle est connue hein, de nous journalistes parce qu'elle a souvent fait des plateaux télé à BFM TV, etc.
Comment va-t-elle mener les troupes? C'est elle qui va être là dans la réforme des retraites aussi. Là,
elle maintenant. Doit dire, par exemple, si la CGT va chez Madame Borne la semaine prochaine.
Quand même peu de chance que Kelly y aille. Hein.
On attend Didier Giraud, notre ami agriculteur de Saône-et-Loire. Parce que Didier, alors, devine, qu'est-ce qu'il a eu comme problème, Didier?
Je sais pas, je pense le métro.
Un accident
train,
voyageur.
Il a eu un problème de train.
Et alors, comme c'est étrange.
On l'a eu tout à l'heure au téléphone, Didier. Il nous
26
a dit là,
minutes quand, de retard au départ.
Quand je vais arriver, vous allez voir, le poncé, je vais m'en occuper. Quoi. C'est à propos de la SNCF. Ouais.
Moi, je parie sur une arrivée à 9h34.
Ça doit être à peu près ça, oui.
Donc, les amis, on y va pour notre premier sujet de discussion. En attendant, Didier, est-ce que la France est un pays irréformable au moment où l'Espagne adopte la réforme des retraites à 67 ans? On s'interroge sur ce qui se passe, nous, dans notre pays.
RMC, les grandes gueules.
Maintenez sous le signe de l'Hexagone.
Ça, c'est
Renaud.
C'est
mythique.
Ah oui.
Ouais. Et le roi des cons sur son trône. Et il avait.
Quand le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. Quand elle était sortie, cette chanson
Hexagone,
elle avait été censurée à la radio.
Bien sûr.
Non, dans les 70.
C'était fin 70.
Non, c'est dans les 70.
C'est
un des premiers succès de Renaud.
C'est le seul album de Renaud que j'ai écouté dans ma vie. C'est le seul que je trouve écoutable.
Le premier.
Ah, le premier.
Bien, que se passe-t-il? Quand on regarde nos voisins européens, ils ont tous fait la réforme des retraites. Quand on regarde l'Espagne, hier, ils ont validé la réforme qui prévoit l'âge de départ à 67 ans.
Oui, c'est très intéressant de regarder le modèle espagnol, tout d'abord parce que le gouvernement est un gouvernement de gauche, notamment lié à Podemos. Ce sont un peu les insoumis espagnols. Et en Espagne, on a réussi à faire adopter la réforme des retraites sans heurts, sans casse, sans mouvement de grève d'importance, parce qu'il y a eu une négociation sur 2 ans avec les deux premiers syndicats, la CFDT et la CGT espagnole, qui ont salué un accord historique. Et pourtant, l'âge légal va être repoussé à 67 ans. Donc, on est bien au-delà des 64 ans français. Avec néanmoins, et c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est que ce gouvernement de gauche va mettre à contribution les hauts revenus. Donc on demande aux revenus de participer un peu plus. On demande aussi au patronat de participer un peu plus. D'ailleurs, le patronat espagnol n'est pas très content. Mais ça permet de faire consensus. À la fois, on demande aux salariés de travailler un peu plus, mais on demande aussi à ceux qui ont les moyens de contribuer davantage au système. effectivement, parce que certains font remarquer que la durée de cotisation nécessaire pour partir est plus basse. On est en dessous de 40 ans.
38 ans et 6 mois.
Mais il faut quand même aller jusqu'à 65 ans.
Voilà.
Donc c'est déjà au-delà des 64 ans en France. Donc on voit bien qu'il est possible de réformer les retraites, de demander aux gens de travailler plus, sans que ça devienne un drame national. Je rappelle que d'autres pays ont fait la même chose. Je citerai la Finlande, parce que la Finlande peut aussi être proche de notre modèle social. Ils sont passés de 63 à 65 ans, avec un système qui a été intéressant, parce que c'est en fonction de l'accroissement de l'espérance de vie. Donc ils adaptent. Si dans la catégorie professionnelle, tu trouves l'espérance de vie progresse, etc., tu peux travailler un peu plus, etc. Donc il y a des systèmes où on arrive quand même à faire en sorte de travailler plus, parce que le même constat est fait dans tous les pays. On vit plus longtemps, donc la période d'inactivité est plus longue. Il faut bien la financer, il faut bien trouver les moyens de la financer.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en France? Est-ce que c'est nous qui sommes irréformables? On doit tenir à notre spécificité. 32-16 pour en parler avec les Gilles, avec les Grands Gueules. Bruno Poncet.
Mais je pense
c'est une question de méthode qui vient d'en haut.
Ouais, voilà. Moi, je pense surtout une question de méthode et d'hommes. D'hommes, et malheureusement, ce que je peux pas dire de femmes, parce que c'est, enfin, à part Borne, mais c'est rarement des femmes qui sont au pouvoir, en tout cas en tant que président de la République. France, ça n'a jamais arrivé. Mais c'est un vrai problème. Moi, je pense plutôt que c'est pas une question d'être irréformable. C'est juste que, faut arrêter d'infantiliser les gens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et moi, je le dis, j'ai toujours dit à mes patrons quand j'étais en instance, j'aurais toujours dit, si t'expliques où tu veux aller, et comment tu veux y aller, à un moment donné, tu peux fédérer les gens autour de toi. Si ton projet, il est bon pour ta société, pour tes salariés, et pareil pour un pays. Si t'expliques où tu veux aller, en expliquant aux gens, voilà, on veut faire ça, et que t'as des vraies concertations, des vraies discussions, et qu'à un moment donné, t'écoutes aussi ceux qui viennent te parler, mais je pense que tu peux emmener les gens sur ton projet, et quel qu'il soit d'ailleurs. Parce que, moi, je trouve, moi, pour l'avoir vécu, ça tient pas qu'à Macron, les autres d'avant ont toujours fait pareil.
Donc t'aurais été espagnol, t'aurais accepté les 67 ans.
Il y a eu 2 ans de discussion. Déjà, 2 ans de discussion, c'est pas 2 semaines. Hein.
Tu vois, c'est vrai.
Et l'idée, elle est là, c'est que si tu expliques pendant 2 ans et que tu fais,
Et surtout, t'as associé les syndicats.
Oui, puis surtout, tu fais une co-gestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as dit, Olivier, c'est-à-dire que tu emmènes aussi les hauts revenus à participer, tu dis au patron, tu participes aussi. Là, aujourd'hui, les gens, après le Covid, après cet argent qui tombait de partout, qu'on t'expliquait qu'il était limite gratuit, puis que derrière, il faut que tu le payes pendant 2 ans de plus de ta vie, ben, y a un vrai problème. Et donc, moi, je trouve que, ouais, mais partout, quand tu discutes et que tu fais une espèce de co-gestion, et non, pour moi, j'ai toujours cru qu'un gouvernement, quel qu'il soit, c'était ça, c'est une co-gestion. C'est-à-dire que t'es élu, mais tu dois des comptes à ceux qui t'ont élu. Et même à ceux qui ne t'ont pas élu comme moi, parce qu'à un moment donné, moi, je paye aussi des impôts, donc on me doit des comptes de ce qu'on fait avec mon pognon, de ce qu'on fait avec tout ça. Et moi, je trouve qu'en Espagne, il y a au moins 2 ans, au moins, c'est quelque chose qui tient la route.
Non, mais pour une fois, je suis assez d'accord avec Bruno Poncet. Le problème, c'est finalement pas la réforme en elle-même, mais la façon dont elle a été amorcée, parce que là, maintenant, ils annoncent des concertations. Fallait peut-être les faire avant. C'est pas entre l'adoption de la réforme et le Conseil constitue qu'on va accueillir les syndicats. C'est un petit peu nous prendre pour des imbéciles, quand même. Je suis pas souvent du côté des syndicats, mais on leur dit, on veut bien discuter avec vous, mais une fois que c'est passé. Ah bah merci du dialogue, ça fait plaisir.
Les syndicats là en France ont tout de suite dit non aux 64 ans, enfin aux 65 et ensuite aux 64 ans.
Oui, donc de l'autre côté on a dit on discute sur l'âge. Donc on ne peut pas discuter. Voilà. En fait. Donc,
et peut-être que Macron n'a pas cherché non plus à se réconcilier avec Laurent Berger. On sait qu'entre les deux hommes ça se passe pas trop.
D'accord, mais on peut faire dans l'intérêt collectif un léger effort. Et puis c'est vrai que là aussi pour une fois Bruno on est d'accord, 2 ans c'est pas 2 semaines. Là on a voulu faire passer cette réforme à coup de 49-3 dans tous les sens. Bon bah on a réussi, mais à quel prix ? C'est ça aussi, c'est que les Français finalement n'adhèrent plus. Après, soit entre 67 et 60 que veut Madame Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça montre quand même qu'il y a un gap. Donc il y a aussi 60 caps, ça me semble finalement pas si tard que ça. Il faut aussi regarder ce qui se passe à côté, ne pas venir pleurnicher dans tous les sens.
La moyenne européenne des départs effectifs 65. À la retraite aujourd'hui, elle est la moyenne européenne départ effectif, elle est de 64,3 ans. Ouais. Voilà pour les hommes et 63,5 ans. Pour les femmes.
Et, voilà. en France, c'est
63,1 à peu près.
Après, donc,
c'est là où tu te dis, franchement, finalement,
c'est
l'effort qui est demandé.
Non, mais
c'est pas tellement, je pense. Là, c'est surtout le fait qu'on dit qu'on fait des mesures paramétriques d'économie et qui concernent la retraite. C'est ça, à mon avis, aujourd'hui, qui passe pas, Bruno. Bruno Le Maire! Bruno Poncet!
Bientôt, je serai maire de quelque chose, j'espère bien. Non, mais.
Vierzon.
Oui, pourquoi pas. Mais n'oublie pas non plus que, au-delà de l'âge, t'as aussi le nombre d'années de cotisation. Et en Europe, on est quand même les champions du monde à 43 ans.
Ouais.
Faut pas oublier ça, parce que ça, c'est important. Parce que quand tu dis à un gamin, et tu vois, c'est pour ça que t'entends les lycéens qui grognent et puis les étudiants, quand tu dis à un gamin, tu vas sortir parce qu'il faut que tes études finissent.
Pour le coup, 43 ans, c'est pas Macron, c'est
Oui, Hollande. c'est Touraine. Non, mais de toute façon,
Marisol Touraine.
Oui, mais ouais. Elle était. Enfin,
c'était une femme. Ce que disaient les femmes à l'âge, pour du coup, c'était une femme qui portait.
Oui, mais elle l'a fait parce qu'on lui a demandé de le faire.
Enfin,
mais
non, Marisol Touraine n'est pas quelqu'un, n'est pas un pantin. Elle avait des convictions. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu d'hypocrisie. Pardon, Bruno, je t'ai coupé, mais la gauche a accepté les 43 ans.
Ouais.
Là, elle est vent debout. Enfin, pas toute la gauche, mais la gauche socialiste
qui était au gouvernement.
Oui, mais celle qui était au, c'était. Voilà, je pense que t'as voté François Hollande.
Ah, mais je n'ai jamais voté de ma vie. N'oublie jamais
ça. Pas. Bon, tes amis ont voté François Hollande. Donc, cette gauche-là était à fond pour les 43 ans. Et là, elle est vent debout parce qu'on accélère les 43 ans. Il y a quelque chose qui est un peu ridicule. Hein. Mais est-ce que c'est pas plutôt une. Parce que pour toutes les réformes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de. On est toujours dans le conflit en France.
C'est la communication le problème aussi.
Ouais, je ne suis pas sûr, mais on est toujours dans l'idée d'aller au conflit. C'est-à-dire, il y a des grèves préventives. Dans plein de pays, ça n'existe pas, les grèves préventives. Tu fais grève si tu n'as pas réussi à te mettre d'accord. Tu ne fais pas des grèves avant de discuter. C'est quand même un peu la méthode de la CGT. On fait grève pour établir un rapport de force.
En tout cas, moi, je peux parler pour ma paroisse. Nous, à la SNCF, tu as un cycle pour mettre en grève. Trois semaines.
Au moment où il est en train de parler de la SNCF, Bruno, pensez-moi.
Bonjour, M. Giraud.
T'as qu'à venir la veille. Il y a des trains qui ça fonctionne mieux la veille.
Ça, c'est sûr que les trains qui roulent à 3h de l'après-midi, ils partent plus à l'heure que ceux qui partent à 5h du matin. Ça, c'est
alors, explique-nous ton périple, Didier.
Bon, comme d'habitude, quoi. Suite aux difficultés de mise en place du train. Voilà quoi.
Il y avait des vaches sur la voie.
Ça se trouve, c'est même pas des cheminots en grève. Hein, c'est juste du matériel qui fonctionne pas quoi. Par contre, j'ai fait mon petit calcul quand même. C'est censé être ma 13e émission depuis le 1er janvier aujourd'hui. 6 annulations, 4 trains en retard quoi. Si moi je bossais comme toi tu bosses, je pense que tu mangerais le mardi et le samedi quoi.
Et dis-moi, ça coûte combien un billet?
Sauf si t'es vegan. C'est ça, après. Si t'es vegan, c'est fini.
Ouais, enfin, c'est globalement les paysans qui mettent dans ton assiette, quoi. C'est, enfin, que ça
donc
soit
sur 13 trains, 10 qui ont posé problème, quoi.
Ouais, voilà. Ah oui, quand même. Sympa, problème. Quoi, je veux dire. Hein bon souci. Ratio, quoi. Bon ratio, quand même, quoi.
Tu prends quand même un avertissement.
Oui, bah, normal.
Ah, bah, écoutez.
Normal. Faut que tu demandes à Jebari de te filer un jet privé et puis après, il t'emmènera le plus vite.
Et ça coûte combien un billet?
Non, mais réponse.
Bruno Poncet, réponds. Sans faire des vannes, réponds un peu.
Non, mais moi j'entends ça. Le sujet, c'est que derrière chaque problème de train, il y a surtout un problème d'organisation. Et moi, ma boîte, ça fait des années qu'elle a détruit l'emploi. Et si tu veux des trains à l'heure, si tu veux du personnel dans les trains, ben faut embaucher. Et tu vois ça. Nous, on le vit aussi. Et quand Didier, il grogne parce qu'il a pas son train, moi, j'ai mes collègues qui travaillent là-dedans et qui sont en colère parce que leur train part en retard aussi, parce qu'ils travaillent pas dans les bonnes conditions.
Parce que du coup, j'ai regardé toute la semaine, parce que j'étais censé être là mardi, journée de grève, on a reporté à vendredi. Donc, j'ai regardé quand même les trains toute la semaine. Enfin, le train de 6h50, enfin, le 5h50 à Lyon, il est jamais à l'heure.
C'est
le 9h, il part à l'heure, quoi. Hein. Alors, tu m'expliques que c'est un problème de personnel. Ok, mais c'est plutôt le personnel qui démarre à 5h du matin que le personnel qui démarre à 9h.
Il ne veut pas se lever, quoi.
Non, ça n'a rien à voir, tu rigoles. Moi, enfin, les cheminots, c'est ce que c'est, tu vas travailler tout le temps. Non, mais après, il faut savoir, t'es parti avec quoi? C'est un Ouigo ou.
Non.
Un train normal.
Un TER.
Parce que les Ouigo, c'est
normal.
Compliqué à mettre en
place. Pour répondre à ta question, sans réduction, 104.
C'est cher, hein? Aller.
Non, l'aller-retour.
Aller-retour.
Aller-retour, oui.
Enfin, c'est pas
pour combien? Non. C'est avec 50%. Ça coûte 104
en première ou en seconde?
En seconde, avec un abonnement.
Ah oui,
l'aller-retour coûte 104. Donc, sans l'abonnement, c'est 104 l'aller simple.
Eh oui.
En seconde.
Pour faire, c'est pas non plus.
Pour faire 2h30 de train.
Même pas.
1h20.
C'est super cher.
Qui te remplace 4 heures de bagnole. Enfin,
autant prendre la
bagnole. C'est là où il y a quand même un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il faut arrêter de prendre la bagnole.
Mais le train, ça marche pas.
Il faut prendre ta bagnole pour être à l'heure, quoi.
Le train, c'est un bras et t'arrives en retard.
Si j'avais fait 4 heures de bagnole, je serais plus à l'heure que si j'avais fait 1h20 de
TGV. Allez, on revient à notre sujet de discussion. On se demande si la France n'est pas irréformable parce qu'on parle des 67 ans en Espagne. C'est Nabil qui veut en discuter avec les GG. Bonjour Nabil.
Bonjour
Nabil, vous êtes réalisateur vidéo. Alors, quelle est votre opinion, Nabil?
C'est très simple, en fait. Quand on dit que le français n'est pas réformable, c'est aussi une facilité qui nous empêche d'être un peu dans le détail des choses. Vous connaissez le défaut de la politique. On utilise des termes et on considère que comme on les a utilisés, ils sont valables. Mais quand on utilise cheminement démocratique, en termes de ressenti, est-ce que vous croyez vraiment que le citoyen moyen aujourd'hui, il a le sentiment d'avoir participé à un cheminement démocratique, même si dans la réalité, le 49.3, par exemple, fait partie de la Constitution?
Oui, mais si. Est-ce que la responsabilité, elle n'est pas aussi bien de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont censés accepter la réforme. Parce que j'ai l'impression qu'on est tout, on part tout de suite dans le conflit dès le début. Alors que dans d'autres pays européens, on se met autour de la table, on prend le temps de discuter, et il y a une obligation de trouver un consensus.
Ah, mais Olivier,
en France, il n'y a jamais cette obligation.
Non, mais Olivier, tu oublies quand même pas que Borne, elle a dit 64, on touche pas.
Nabil, allez-y.
Ouais, franchement, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le citoyen français. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être une culture différente sur deux, trois modes de contestation, on est d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est tout de suite maintenant dans un système binaire qui fait qu'on va tout de suite considérer que le pays n'est pas réformable et on ne peut pas aller sur le terrain des choses? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, utiliser le mot démocratie, ça devient un mot qui fait mal aux oreilles des gens?
Mais donc, est-ce que vous pensez, Nabil, que sur les autres grandes réformes de la retraite, quand Mitterrand amène la retraite à 60 ans, est-ce que vous pensez qu'il y avait un cheminement démocratique où les citoyens se sont exprimés? Non, je crois pas. Alors, ça allait dans le bon sens, on est d'accord. Mais
en élisant Mitterrand, c'est ce qu'il
y a. Non, mais voilà. Si ça marche avec Mitterrand, ça marche avec Macron.
Sauf que Macron, c'est toujours... Non, je finis mon raisonnement. Sauf que Macron... Le deuxième tour, c'était pas l'adhésion à la retraite, c'était pour dire non à Le Pen.
Bah, peu importe, il a été élu dans les deux cas.
Giscard, c'est pas Le Pen. Même si Giscard, c'est pas mon meilleur ami.
Non, mais il y avait une usure du pouvoir.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la droite, le cheminement démocratique, on le met en place.
Oui, mais à la fin, le résultat, c'est que la personne a été élue.
Didier, il arrive en retard en train, il dit cheminement, tu vois.
Allez-y, Nabil, pardon.
Oui, simplement, vous voyez bien qu'on a changé d'époque. Vous voyez bien, par exemple, que notre Constitution, elle semble nous dire aujourd'hui qu'on est aux limites de la possibilité de la concentration des pouvoirs. Voilà. Ouais, c'est les époques qui sont différentes. Vous voyez bien qu'on est au carrefour d'une multitude de souffrances aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Je ne suis pas sûr qu'on souffre plus que nos voisins. Moi, j'ai l'impression qu'en France, le travail est plus dur. Le travail est plus dur. Tout est plus dur. Je suis désolé. On a une des espérances de vie les plus importantes d'Europe et du monde. Notre système social est envié par tout le monde. Parce que quand on regarde en France, les soins, ça coûte peu cher. L'école, elle est gratuite. Alors bien sûr, on paye beaucoup d'impôts pour ça. Mais il y a quand même, c'est plutôt quand vous allez à l'étranger, les gens se disent, la France, quand même, c'est un paradis, etc. Alors, et nous, on a l'impression que chez nous, ça sera toujours plus compliqué.
Nabil, je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va continuer la discussion avec Nicolas. Mais c'est intéressant parce que Nicolas, en fait, il nous écoute, devinez d'où? D'Espagne. Donc il pourra nous parler de ce qui s'est passé en Espagne. L'Espagne qui passe à 67 ans. Pourquoi nous en France on n'y arrive pas alors toute l'Europe y arrive? On continue la discussion avec vous au 32-16.
MC,
9h30,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Être né sous le signe de l'Hexagone. C'est pas ce qu'on
feigne
en ce moment.
Oui, on continue de parler de l'Hexagone, la spécificité française à contester la réforme des retraites, alors que tous les pays voisins l'ont fait. Et puis on n'oublie pas le rugby, les amis. Et l'Hexagone aussi, c'est l'accueil de la Coupe du Monde de rugby, là, à la rentrée prochaine. On a deux places à vous offrir pour une très belle affiche. Deux places à vous offrir quand vous entendrez ceci. Vous aurez 5 minutes pour m'envoyer coupe par SMS au 732-16, coupe par SMS au 732-16. C'est limité à 3 SMS par personne. 75 centimes d'euros le SMS. Dès que vous entendez le AK, allez-y. Les places de rugby, c'est pour vous. Et le gagnant, c'est dans le Super Moscato Show. On continue de parler de la réforme en France, donc avec Nicolas, qui nous écoute de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir. Vous nous suivez de quelle manière, Nicolas, alors?
Via l'appli RMC sur mon mobile.
Et mon cher Nicolas, alors que ça s'est passé tranquillement en Espagne, alors cette application de la réforme?
Oui, enfin, il y a eu un débat politique, évidemment. Ouais. Mais oui, en tout cas, socialement, ça s'est passé tout tranquillement, oui.
Comment vous l'expliquez?
Ben, parce que tout simplement, enfin, moi, quand je regarde la France depuis, et que je le compare à l'Espagne, j'ai l'impression que en France, rien ne fonctionne, mais d'une manière générale. Et qu'en Espagne, tout fonctionne, je ne vais pas dire que tout est parfait, mais tout a l'air de fonctionner beaucoup mieux qu'en France. Par exemple, hier, j'ai été faire mon plein à 1,35€. Bon, ben, je pense que si le plein il était à 1,90€ comme en France, déjà la tension en Espagne serait plus importante. Je vais aux urgences avec mon gamin, 2h30 après, je suis sorti, il a radio... et tout va bien. Et je peux
vous habitez dans quelle région d'Espagne?
En Catalogne, oui, c'est important.
C'est vrai, parce que moi,
je connais bien l'Espagne.
Oui, c'est ça, c'est un pays, la Catalogne.
Voilà, mais ça fait partie aussi de, je pense, ce qui fonctionne en Espagne, c'est cette décentralisation
Je suis d'accord avec vous,
qui donne le sentiment aux gens d'avoir un peu de contrôle sur leur vie.
C'est alors pas un hasard,
ouais.
Pas sur les retraites, mais par exemple sur la médecine, et sur tout un tas de trucs.
C'est vrai.
Et puis, c'est un peu, comment vous dire ça? En France, on a un peu le boulard, quoi. C'est-à-dire
On est d'accord.
C'est ce qu'on disait. Hein.
On est persuadé d'être meilleur, surtout. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et donc, on cherche des absolus, surtout. Alors qu'en Espagne, on se sent, c'est la 14e économie du monde, on a bien conscience qu'il faut faire des compromis, réfléchir et se mettre d'accord.
En fait, on se voit trop beau. En fait, on n'a pas compris que le pays n'était plus dans les premiers. Donc, on s'adapte. On n'arrive pas à s'adapter à notre nouvelle position économique. En fait.
C'est vrai.
Voilà. Mais donc, du coup, aussi, en France, vous vous rendez moins compte des problèmes. Moi, j'aide des gens à s'expatrier ici en Espagne. je vais vous donner un exemple. Une famille parisienne qui est venue vivre en Espagne. Uniquement parce qu'elle a un enfant gravement autiste et que ici il est pris en charge d'une manière incroyable, alors qu'en France il n'y avait aucune solution pour ces gens depuis 10 ans.
Ah non, c'est le paradis l'Espagne si on vous écoute. Non, la Catalogne.
Voilà. D'abord c'est la Catalogne. Il faut vraiment préciser.
Et il y a une guerre sur le carburant entre la Catalogne et le reste de l'Espagne.
Un peu. Ouais.
Oui, non, mais je dirais que c'est peut-être même un peu plus cher en Catalogne qu'ailleurs.
Ah oui.
Ouais, donc ça veut dire qu'il y a quand même un choix politique fort.
Oui.
De ne pas accompagner la crise en rajoutant de la crise à l'inflation et de dire eh ben on baisse les taxes, c'est ça que ça veut dire hein.
Ah non mais il y a toujours eu un delta entre les taxes en France et les taxes.
Ouais, mais là il est plus grand qu'il y a 10 ans.
Je sais pas trop comment ça s'est passé les taxes en France, mais en tout cas
c'est le produit le plus taxé de l'autre côté des Pyrénées.
Je ne l'explique pas.
Oui. En fait, ce que vous êtes en train de démontrer,
on a depuis toujours fait le plein.
Si nous on l'explique très bien.
Quand t'es frontalier, t'as toujours été faire plein d'Espagne.
D'ailleurs, j'ai écouté une petite brève d'info l'autre jour, comme quoi les recettes fiscales n'ont jamais été aussi hautes. Forcément, le carburant y contribue.
Mais quand on nous a dit, regardez, on vous redonne de l'argent, quand on la ristourne fiscale,
c'était de l'enfumage,
le trop plein perçu qui était rendu.
L'illustration de ce que dit Nicolas, c'est qu'en fait, on est arrivé. Alors tu dis, je sais plus, c'est Bruno qui disait, t'es arrivé aux limites de la cinquième ou Nabil. C'est pas la cinquième, c'est l'État.
Oui, c'est l'État.
On est arrivé aux limites
et le côté boulard aussi.
C'est ça. Mais parce qu'à l'État, on a le boulard.
Mais on a un chef d'État qui souvent.
Des gens qui font la loi, qui ont le boulard, des conseillers qui ont le boulard,
des énarques qui ont le boulard,
des ministres qui ont le boulard.
Et alors
le plus dingue, Nicolas. Non mais sûrement aussi. Hein. Bien sûr, parce que quand ils font les rapports, c'est les mêmes. On a la vérité. Non mais Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que vous dites voilà, il faut bien se rappeler que l'Espagne, c'est un pays avec des régions. En France, on a voulu faire ces putains de grandes régions, et en fait, on a fait que rajouter
des charges.
Voilà, on a rajouté des charges et des strates.
Oui, c'est ça.
On fait des trucs partout.
Non mais sans ça, ne serait-ce que le dossier région, la fusion de régions, elle a rajouté des charges parce que t'as pas baissé le personnel. Les deux hôtels de région, on en a plutôt reconstruit un qu'abandonné un. Et globalement, on a rajouté des strates et des charges.
Nicolas, vous habitez en Espagne depuis combien d'années maintenant ?
Depuis 8 ans.
8 ans. Et si je vous dis, vous revenez au pays ?
Ah, jamais de la vie.
Il a l'air bien.
Mais
vous êtes où en Catalogne, précisément ?
J'habite à Cambrils, c'est 1 heure au sud de Barcelone.
D'accord.
Dans la province de Tarragone.
Et vous faites quoi là-bas ?
Je vous dis, en fait, je suis chasseur de biens immobiliers et j'accompagne les gens, alors principalement les retraités, mais aussi de plus en plus des actifs, à venir s'installer ici en Espagne.
Mais quand on est retraité, par exemple, c'est plus intéressant l'Espagne, le soleil espagnol, plutôt que celui de la Côte d'Azur, par exemple, en termes fiscaux.
Ouais. En termes de pouvoir d'achat, peut-être aussi.
De pouvoir d'achat, de fiscalité.
En termes de pouvoir d'achat, très clairement, même avec l'inflation, ça c'est une évidence. En termes de fiscalité, sur le revenu, pas vraiment, c'est pas un paradis fiscal. Par contre, les impôts locaux, ça n'a rien à voir. Par exemple, moi j'habite une maison de 100 mètres carrés à 500 mètres de la plage, je paye 700 € par an de taxes foncières.
Ah oui.
La taxe d'habitation n'existe pas.
Chez nous, c'est pareil avec un zéro de plus, quoi.
Voilà.
Moi, Nicolas, je connais bien l'Espagne. Je connais bien l'Espagne, Nicolas, et parce que ma compagne, son père est espagnol, ma compagne est espagnole aussi. Et en 2008, la crise a mis un coup à l'Espagne phénoménal. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont soit perdu leur travail, soit ont dû réduire leur salaire. Enfin, et l'Espagne s'en remet aujourd'hui doucement. Mais par exemple, vous parlez de la Catalogne, que je connais bien. Les loyers en Catalogne étaient très chers pour les jeunes. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, de copro, enfin de gens qui s'habitent ensemble.
De colocation.
Enfin, colocation, c'est ça, voilà. Moi, je comprends. Et en plus, moi, si je pouvais venir vivre en Espagne, je viendrais tout de suite. Ça, c'est clair.
Que vous pouvez vous entraider.
Toi, tu pourrais aller vivre. Oui.
Ah oui.
Et pourquoi qu'est-ce que
tu te. Moi, j'ai de la vie espagnole. Enfin, moi, le rythme espagnol, la vie espagnole. Enfin, c'est ça. Voilà.
Le train ne démarre pas à 5 heures, mais par contre, il peut tourner à 23 heures.
Non, mais la Renfe, ça marche pas si bien que ça.
J'ai bien compris.
La Renfe, ça marche pas si bien que ça.
Allez-y, Nicolas, pardon.
Ce que Bruno dit aussi, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que c'est très informel, mais l'état d'esprit est totalement différent. Moi, je me souviens, avant le Covid, la veille du confinement, les gens vivaient normalement, ils étaient aux terrasses des cafés, et on verra bien demain.
Alors, ils sont à la cool, quoi.
Mais même à la fin du Covid, rappelez-vous, Nicolas.
Allez-y.
À la fin du Covid, Nicolas, rappelez-vous, l'État espagnol a dit, on va vivre avec cette maladie-là, on va arrêter les restrictions et basta, on est tous dans la rue, quoi.
Alors, voilà. Mais attention, parce que c'était un peu à double sens, mais c'était très malin. C'est-à-dire que Sanchez est venu à la télé, je me souviens, ça devait être autour du 1er janvier 2021, en expliquant que l'Espagne n'avait plus les moyens de reconfiner.
Exactement.
Et en fait, les gens, ce qu'ils en ont compris, c'est un, bonne chose, on ne sera plus jamais reconfiné. Deux, mais attention, si les morts s'accumulent dans les hôpitaux, il faudra qu'ils fassent quelque chose. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que prenez-vous en main pour ne plus avoir à vous faire reconfiner. Et c'est ce qui s'est passé.
On a fait confiance à la population.
On infantilise moins qu'en France.
Vous avez un peu raison aussi, c'est que le français, mais le français moyen, je dirais, et puis même le pas moyen, il attend un peu tout de l'État, quoi.
C'est, mais c'est ce que je disais.
Ah, bah ça.
On est arrivé aux limites. On est quand même devenu un pays d'assistés, quoi.
Parce que tu veux monter
les salaires. Parce qu'on fait des chèques dans tous les sens.
Parce que l'État nous explique qu'il va t'occuper, il va s'occuper toute ta vie.
Oui, mais tu lui donnes la moitié de ton salaire. Enfin, moi, je
lui donne la moitié de ton salaire.
Et tu sais pas où la moitié de ton salaire va, vu qu'il n'y a rien qui fonctionne, en plus.
On est entièrement d'accord. Sauf que tu as la moitié de ton salaire, donc à un moment, tu te dis, je lui donne.
Nicolas,
ils se démerdent, quoi.
En plus, l'hôpital, ça fonctionne pas, il n'y a rien qui marche.
Allez-y, Nicolas.
Non, juste un truc, dans ce que dit le français moyen, attend tout l'État. Oui, après, je rappelle que le triptyque de l'État français, c'est liberté, égalité, fraternité. Quand on fait une telle promesse aux gens, faut pas s'étonner qu'en retour, ils attendent beaucoup.
Oui, et d'ailleurs, c'est surtout égalité. Avant liberté.
C'est des promesses intenables par l'État français. Et les gens, c'est logique.
On est toujours déçus.
Attendent qu'on les tienne.
Ouais. Merci Nicolas de cet exemple espagnol d'avoir discuté avec les GG. Je vous dis à bientôt. Merci.
Déjà
le AK. Donc c'est le moment de gagner les Coupes du Monde avec notre partenaire Total Energy, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Vous avez entendu le AK. Donc si vous voulez gagner les deux places pour une très belle affiche de cette Coupe du Monde, vous avez 5 minutes maintenant pour envoyer Coupe par SMS au 732-16. Coupe par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. Le gagnant sera dévoilé tout à l'heure dans le Super Moscato Show à partir de 15h. Après Nicolas en Espagne, on va du côté des Alpes-Maritimes avec Carole. Bonjour Carole.
Bonjour
Carole.
Alors, dites-moi Carole, est-ce que c'est la faute des Français, la faute de nos gouvernants si le pays n'arrive pas à se réformer?
Bah alors il y a plusieurs choses, mais il y a surtout la faute d'un monsieur qui a été mis en place et qui l'oublie comment, c'est-à-dire que c'est pas pour lui ou pour sa politique, mais pour barrer quelqu'un. Donc déjà c'est pas la même chose. Qui n'écoute rien ni personne, qui prend les gens de haut et qui nous traite de tout, mais qui lui ose porter plainte contre les gens quand on lui dit ce qu'on pense. Donc c'est quand même fort de café, ça je trouve. Hein, pour des ministres qui font des bras d'honneur à eux, on leur dit rien, et puis à une dame, on va la chercher chez elle parce qu'elle lui dit ses quatre vérités. C'est quand même un peu fort de café, je trouve. Deuxièmement, quand on veut prendre l'exemple sur des pays étrangers, il faut faire comme eux. C'est-à-dire qu'en Espagne, les gens, ils partent à la retraite avec le salaire qu'ils ont au dernier jour de travail. Ils partent pas avec les 25 meilleures années, qui fait que quand vous vous retrouvez à la retraite, vous avez un salaire de misère. Et c'est pourtant, vous êtes dans une société où vous vous êtes cassé le dos, vous vous êtes tout cassé tout le long de votre vie.
Et on vous a prélevé. Et vous avez payé des impôts et on vous a prélevé aussi.
Voilà. Et en plus, comme vous êtes une femme, vous avez des carrières hachées. Ouais. Donc, qu'il vaut finir à travailler jusqu'à 67 ou 70 ans et que je suis déjà toute cassée. Vous voyez, là, je me dirige vers pour faire une radio parce que je pense que je me suis cassée une côte. Et c'est comme ça tout le temps, quoi. Et nous, donc, on doit travailler, rien dire, aller aux urgences, aller partout, et même en accident de travail, continuer à payer parce que maintenant, on vous demande de payer quand vous allez aux urgences, alors que vous payez des cotisations et que vous êtes en accident de travail. Donc, ça veut dire que un retraité en Espagne, quand il est retraité, il part avec son salaire du jour de la retraite, il ne paye plus aucun médicament, plus aucun frais quand il est à la retraite, d'accord ? Donc quand on veut parler des pays étrangers, il faut aussi regarder ce qui se passe à l'étranger.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est parce que après, là, on est en train de vendre l'Espagne comme le pays le plus idyllique au monde. J'imagine que sur d'autres points, la France peut-être est mieux. Mais en fait, c'est la façon dont on réforme. En France, alors moi, je pense pas que c'est uniquement la faute du président de la République. Je pense que c'est la faute de tout le monde. C'est-à-dire qu'en France, on est tout de suite dans le conflit. C'est-à-dire qu'il y a des grèves préventives. On n'arrive pas à se mettre autour de la table. On pense qu'elle est voilà. Est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer notamment du modèle des modèles scandinaves? Même de l'Allemagne, on arrive à se mettre d'accord et à avancer.
Il y a un dialogue aussi dans les pays scandinaves. Olivier, que Macron, sous son premier quinquennat, a massacré les corps intermédiaires. Ah oui.
Enfin, ils se sont massacrés aussi tout seuls.
Non,
jusqu'au boutiste.
Non, mais quand c'est les corps intermédiaires, va de Sud jusqu'à la FNSEA, si tu veux, ce que je connais. Enfin, j'ai quand même écouté dire tout le temps pendant le premier quinquennat, il veut pas travailler avec nous. C'est quoi. Vrai. Il a pas besoin
mais
de nous.
Que la CGT,
et la cogestion, elle est revenue il y a pas très longtemps.
Reconnaît que la CGT n'a jamais été dans la cogestion.
Non.
Voilà. Et qu'à force de dire non aussi à tout, effectivement, et je pense pas que c'est une bonne chose, Emmanuel Macron s'est dit, on pourra pas réformer le pays avec eux. Bon, il n'arrive pas à le faire sans eux. Donc c'est vrai que sa démonstration n'est pas bonne.
Allez-y. Allez-y, Carole. Pas envie de parler avec quelqu'un qui n'écoute pas et qui vous prend de haut et qui n'a envie que de faire le coq devant tout le monde et de parader et de ne rien faire d'autre.
L'attitude, elle est pas bonne, vous avez entièrement raison. C'est un vrai manque d'humilité de sa place. Mais d'un autre côté, c'est évident, il ne connaît pas les gens qu'il gouverne. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort des écoles privées, quelqu'un qui a fait des hautes écoles, ne peut pas vous dire, avant, moi je suis pas d'accord avec ceux qu'on a eu avant, mais ils avaient été élus de terrain, ils avaient été élus maires de leur patelin.
Ils ont fait les grandes écoles aussi, hein. Hollande a fait les nages,
ils avaient sali leur pompe, aller dans des endroits où lui, il a jamais mis les pieds, hein. Donc à un moment donné, tu sais, quand quelqu'un te connaît pas, mais il peut pas savoir ce que tu dois, ce qui est bien pour toi ou même ce qui est mal pour toi.
Non, le problème, c'est que lui, il est persuadé de connaître.
Allez-y, Carole, oui.
J'ai 25 ans de boîte, d'accord? Je gagne 1 700 € à peu près avec les primes. J'ai voulu me loger. Je gagnais trop pour être aidée, mais pas assez pour me loger. Ma mère se met sur le bail avec moi, puisque je vis seule, je suis divorcée et que ma fille est grande et en couple. Et ben, il a fallu que ma mère vienne avec moi sur le bail, sinon je pouvais pas me loger.
Parce qu'il demande 3 fois plus en plus.
Ouais, c'est toutes ces aberrations, c'est sûr, on est d'accord avec vous. Hein, et aujourd'hui, au-delà d'être ingouvernable, c'est surtout qu'on est tellement mal gouverné depuis des années que la gabegie qu'il y a au haut de l'État fait que nous, aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Et vraiment, il y a une vraie colère qui monte et elle est inarrêtable.
Mais reconnais, là, mettons Macron de côté, mais quand Hollande a voulu réformer le travail,
ça
a été le foutoir. Toutes les réformes des éducations nationales, le nombre de fois ils ont été obligés de reculer.
Oui, mais regarde, il fait l'envers de celui d'avant. Enfin, là, l'autre, là, on n'a pas Pendia qui vient d'arriver, il te remet les maths alors que l'autre, ils les avaient sortis. Enfin, tu sais, il n'y a pas de ligne directrice.
Il n'y a pas de continuité.
Mais c'est pareil dans les entreprises nationales comme moi où je travaille. On te fait pas un plan sur 10, 15, 20 ans. On te fait un plan sur 10, 15 jours et on dit, tiens, et puis au bout de 15 jours, on dit, bon, écoute, on revient en arrière, on va faire le contraire. Ça marche pas comme ça. Et tu gérerais même pas ton budget comme ça.
Après, pour conclure sur le modèle espagnol, il faut voir que l'Espagne est le pays où il y a la plus grande espérance de vie quasiment en Europe à plus de 84 ans, qui sont pas sûrs de pérenniser non plus le modèle des caisses sociales qui risquent d'être déficitaires aussi à moyen terme.
Là aujourd'hui de la répartition tout simplement.
Donc voilà, il faudra voir sous 10 ans ce que ça va donner. Merci à Carole d'avoir été avec nous. Bonne journée Carole.
Bonne journée.
À bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Est-ce que la France est irréformable? On va regarder la consultation, c'est votre humeur.
C'est très
partagé. La France irréformable, on est à non 50,9 et oui 49,9. On est quasiment à 50-50. Vous voyez.
Donc pour la France est réformable.
Pour ceux qui ont suivi la discussion. Dans un instant avec Anaïs Sainz, notre productrice, l'on s'en fout, on s'en fout pas. Tout de suite.
RMC.
9h30.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Nous sommes avec Sarah Salman, avocate, Et il est l'heure, Monseigneur, du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les professionnels du tourisme impactés par la crise sociale, chute des réservations jusqu'à 40% sur un an dans certaines régions françaises pour les vacances de Pâques. Crise sociale, mais aussi inflation. Globalement, les vacanciers partiront moins loin, tandis que d'autres ont carrément décidé d'y renoncer. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sarah?
On s'en fout.
Bruno?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Bruno?
Tu l'as dit, tu viens de le dire, il y a l'histoire peut-être du mouvement social, mais c'est surtout l'histoire de l'inflation. C'est-à-dire que là, tu as les produits alimentaires qui ont augmenté de 17%. T'as, à un moment donné, les gens ils peuvent plus. C'est-à-dire que les vacances, c'est pas pour dire que c'est un truc de riche, mais à un moment donné, ça va le devenir. Parce que les gens qui essayent un peu de faire des pauses, bah ouais, à un moment donné, tu vas te dire quoi, tu veux pas reprendre en vacances. Donc oui, tout augmente, bah, les gens ils vont mettre l'argent dans ce qui est nécessaire et utile. Quand en tant que des gens, ils peuvent même plus acheter leurs produits d'hygiène et de beauté, c'est qu'à un moment donné, on arrive vraiment dans un gros problème.
La crise sociale aussi, qui donne pas envie forcément de réserver ou de partir.
Monsieur Giraud,
La crise sociale, elle joue sûrement sur quelques pourcents, mais j'écoutais ce matin un spécialiste du tourisme qui disait, donc il y a pas d'annulation, mais il y a entre 20 et 40% de moins sur les vacances de Pâques. De réservation.
Non, ouais.
Et par contre, sur les vacances d'été, il y a aucune baisse, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ça veut dire, et moi, je trouve plutôt ça sain. Ça veut dire que les ménages font leurs arbitrages, quoi. Enfin, moi, quand je fustige les gens qui n'arrivent plus à manger parce que ils ne font pas d'arbitrage, justement, eh ben, on rentre dans une phase où la crise fait que les gens font des arbitrages et qu'ils ont peut-être choisi d'aller en vacances d'été et de sacraliser les vacances d'été et de ne pas partir à Pâques. Et je trouve ça plutôt sain dans la gestion d'un budget des ménages.
On continue.
Les GG, Anne Hidalgo veut étaler sur plusieurs mois les retenues sur salaire des agents grévistes de la ville de Paris. Le gouvernement dénonce une gestion militante et partisane de la grève. La maire explique, elle, que c'est une pratique habituelle de fin de conflit. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sarah?
On s'en fout pas.
Bruno?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Sarah? Alors attendez, je précise juste que la loi stipule que la retenue proportionnelle...
La loi dispose.
La loi dispose, pardon, le terme juridique, que la retenue doit être proportionnée à la durée de la grève, puis que ces retenues doivent s'effectuer au plus tard avant les deux mois qui suivent la fin de la grève. Sarah.
Non, mais je pense que Madame Hidalgo va beaucoup trop loin. Parce
on parle
que
des éboueurs, surtout, essentiellement.
Oui, bien sûr, mais je pense que là, c'est déjà apocalyptique. Elle a vraiment une démarche militante. Ça veut dire qu'elle se met du côté des grévistes et qu'elle n'a absolument pas, elle n'est pas du tout impartiale. Donc, elle s'occupe de Paris convenablement. C'est déjà le chaos. Même le prince n'a pas pu venir. Donc là, vraiment, il faut...
Quoi ? Il est le roi maintenant.
Charles le roi, pardon.
Excusez-moi. On a du mal à s'y habituer.
Oui, pardon.
Mais il est roi.
Oui, la transition a du mal à se faire. Mais voilà, donc je pense qu'elle devrait s'occuper de Paris et arrêter d'être dans une dynamique militante parce que sa cote de popularité, de toute façon, elle est au plus bas et elle ne va pas remonter.
Bruno ?
Mais en tant que patronne, elle a le droit de faire ça. C'est-à-dire que quand tu es dans un conflit social, tu as une sortie de conflit. Dans la sortie de conflit, tu peux coller ça. C'est-à-dire que nous, à la SNCF, avant... Il y a longtemps maintenant. Avant, ben voilà, sortie de conflit, tes patrons te recevaient, te disaient, ben voilà, vous voulez reprendre le boulot, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben voilà, nous on veut ça, je peux pas vous donner ça, et voilà. Et après, tu négocies la sortie de conflit.
Et vous payez même les jours de grève.
Non, ça, c'est
une époque.
Mon pauvre. Je pense que même ton grand-père ne l'a pas connu. À mon avis, c'est comme la prime charbon, tu sais, ça, c'est des choses qu'il faut éviter.
En 95, regarde ce qui s'est passé en 95.
Je crois pas, moi j'en parle avec mes collègues, mais je pense pas. Et donc, tu vois, si tu te souviens, les raffineries, ils ont négocié une prime qui couvrait plus ou moins un petit peu une grande partie de leur perte de salaire.
Didier,
c'est comme ça,
ce qui est terrible, c'est que là, elle l'annonce avant la négociation, quoi. Ce qui prouve qu'elle est dans un militantisme avéré, quoi. Voilà, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il n'y a pas une négociation.
C'est même pas dissimulé.
Elle l'annonce dans les journaux avant le début de la sortie de crise, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même.
Surtout qu'ils sont toujours en grève, parce que c'est qu'un syndicat qui a signé.
Elle l'annonce alors qu'ils sont toujours en grève. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation pour arriver jusque-là. Ça veut dire qu'elle est dans un acte de militantisme syndical qui, à mon avis, n'est pas son rôle de maire de Paris.
On continue.
Les GG, que fait Neymar de son temps libre? Saison terminée pour l'attaquant du PSG en longue convalescence. Eh bien, la star brésilienne joue au jeu d'argent, au casino en ligne. Et Neymar n'a pas plus de chance au casino que sur les terrains. Hier, sur une vidéo Twitch, on voit la réaction du joueur qui vient de perdre une mise d'1 million d'euros.
Combien?
1 million d'euros. Écoutez, Neymar.
Caralho, velho.
On voit donc Neymar sur cette vidéo amusée. Il fait mine de pleurer tout en éclatant de rire. Alors ce stream Twitch, en fait, c'est un partenariat entre ce casino en ligne et le joueur. Et cette somme d'1 million d'euros pourrait avoir été en partie mise à disposition par l'opérateur de casino. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sarah?
On ne s'en fout pas du tout.
Bruno?
S'en fout, c'est son pognon.
Didier?
Comme de l'an 40.
Bon, alors, mais on s'en fout pas parce que bon, alors Twitch et tout, ça le fait rire. C'est 1 million. Moi, je suis pas jalouse qu'il dépense 1 million, mais je pense quand même qu'il aurait pu en faire meilleur usage. Voilà.
Mais c'est indécent quand même.
Non, enfin, il en fait ce qu'il veut. C'est parce que ça va lui rapporter beaucoup en termes de pub. Quand il fait ça, ça va derrière, ouais, il y aura un retour
en partie,
sur investissement.
C'est pris en charge par le sponsor hein, aussi.
Oui, voilà. Oui. Non, mais il y aura un retour sur investissement, mais peut-être que.
Combien est pris en charge par le sponsor?
Non, c'est
pas mais par rapport à la totalité, voilà. Il aurait quand même pu faire un geste, je pense, pour une cause un peu plus noble.
C'est
voilà.
Marrant quand même. Excuse-moi, mais Bruno Poncet, je suis étonné que tu sois pas choqué. On nous bassine avec le salaire des grands patrons.
Du CAC 40.
Du CAC 40, qui sont des ordures, alors que c'est quand même des gens qui créent l'emploi.
Ils devraient quitter la France.
C'est des gens qui créent l'emploi. Peut-être qu'ils sont trop payés, mais enfin, c'est des gens qui ont une activité, qui créent de l'emploi, qui font vivre des gens. Et un joueur de foot, claque, 1 million sur une partie de poker, et ça fait marrer, etc. On est d'une indulgence, non, mais c'est totalement indécent d'un côté. Ça dit quelque chose de votre mentalité.
On s'en fout, on s'en fout pas. Il est sur Neymar. Après, si tu me parles du salaire des joueurs, je vais te
dire. Mais il y avait 1 million, il y avait un chiffre.
Mais non, s'il peut claquer 1 million, c'est parce que pour lui, 1 million, c'est rien.
L'info que j'ai écouté la moitié de la nuit où j'attendais un train était que ce million-là lui a été prêté par le sponsor.
D'accord, mais oui, mais même, il n'a pas la conscience qui fait que ça le fait marrer.
Du cirque, c'est comme si
justement, ce serait monsieur Pouyanné, tu ferais un scandale.
Mais non, laisse-moi finir ma phrase. Je te dis, on peut parler du salaire des joueurs qui a été publié par l'équipe.
C'est forcément lié.
Si on parle de ça, j'ai quelque chose à dire.
Il y a une corrélation.
La même chose que ce qu'a dit Moscato hier, c'est que c'est ce que vous venez de dire. C'est que des gens qui gagnent plus d'un million d'euros par mois à jouer au foot, ça choque personne, c'est très bien, c'est l'image. Mais un PDG, ça choque. Mais bon, c'était pas la question.
Non, mais enfin.
Moi, j'ai répondu à la question.
Soyez raisonnable.
On élargit la question.
Le premier contribuable de France s'appelle Mbappé. Le mec qui gagne 100 millions, il en donne 50.
Non, donc, 27.
Non, plus que ça. Non, Neymar en donne 27 parce qu'eux, ils ont le truc des expatriations.
Non, c'est Bernard Arnault, le premier contribuable de France.
Ouais, non, c'est Bernard Arnault, vu tout ce qui est défiscalisé, je suis même pas sûr.
Voilà.
Et
la fondation Louis Vuitton, c'est un salaud qui défiscalise.
Mais moi, je m'en fous, c'est pas ma thune.
Non, mais ton raisonnement ne tient pas puisque tous ces joueurs de foot aussi, ils défiscalisent. Il y a des sociétés.
Tu crois que
Mbappé
défiscalise?
Mais c'est pas ma thune. Moi, je suis désolé, c'est pas mon argent. Moi, si je veux.
Bernard Arnault, c'est pas ton argent.
Didier, il aime pas. Didier, bah si, tu m'excuseras,
frangin. Mais où c'est ton argent, Bernard Arnault?
Mais quand il défiscalise, Bernard Arnault, c'est notre
argent. Mais quand il défiscalise,
les footballeurs aussi.
Mais oui, mais moi je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'à un moment donné, vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous êtes toujours en train d'allumer les mecs. Mais Bernard Arnault, c'est votre meilleur pote. Et quand
je dis simplement que si on allume Bernard Arnault, faut allumer Mbappé.
Et la famille Manigold, détendez-vous les mecs. Si vous voulez des mouchoirs,
la famille Manigold.
Non, parce que lui, il critique Pouyanné. Puis après, c'est le meilleur homme du monde. Arrêtez.
Allez, dans un instant, débat dans les GG sur.
Tu mélanges tout.
Les méga bassines. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce que c'est un désastre écologique? On en parle au 32-16.